Et ben voilà, on perd pas toujours. On perd pas toujours. Hier, c'était la fête chez Politis pour l'hebdomadaire Politis. Eh bien, c'était un grand jour, un grand soir. Politis a été sauvé par ses lecteurs, l'hebdomadaire antilibéral et écolo, qui battait de l'aile, vous vous souvenez, on en avait parlé, et qui était en redressement judiciaire depuis le 8 août, eh bien, a été remis à flot. Et par qui donc? Eh bien, par ses lecteurs, quelques généreux donateurs aussi, mais pas tant que ça, en tous les cas, pas suffisamment pour que le journal ne perde son autonomie. C'est-à-dire que c'est une reprise d'un journal par ses salariés, grâce à ses lecteurs, et ils avaient besoin d'un million d'euros. Ils y sont presque, ils sont à 968 097 euros, les gars de Politis, et c'est une excellente nouvelle. Ça montre que tout n'est pas aussi cynique, aussi noir et aussi moche qu'on le dit. Il y a des petits îlots comme ça de réussite, enfin en tous les cas des choses qui sont très encourageantes. Alors voilà, on était hier soir avec Pascariello chez Politis. C'était très gai, très sympa, et on a entendu des propos comme cela sortant de la bouche de Patrick Pirot.
Quand on a appris le 1er octobre que le plan de reprise que nous avions concocté n'allait pas pouvoir être déposé parce que l'opérateur principal se retirait, on a joué au culot, on a dit le personnel reprend son journal. On a reçu 6500 lettres jointes à des chèques de souscription et à peu près un millier de messages via Internet. On a eu un soutien presque unanime. Et nous identifions comme étant un élément d'une presse pluraliste, indépendante, non inféodée à des intérêts publicitaires, non inféodée à des intérêts partidaires. On n'est pas les seuls, mais enfin, en tout cas, on se trouvait là à ce moment-là. La comparaison avec Libération, hélas, pas très flatteuse pour Libération.
Donc on remet en question en fait la ligne qu'a pris Libération.
La ligne qu'a pris Libération, ou en tout cas le modèle qui a été de s'en remettre à des capitaux privés, à une logique plus capitalistique. On ne peut pas non plus mélanger les journalistes et ce que la direction a fait de Libération, par exemple. Donc nous, on défend ce point de vue, évidemment. On ne réalise pas encore, on s'est battu pendant 6 semaines pour des 1 million d'euros à collecter en un mois. C'était 30 000 euros par jour. C'est mission impossible. Et notre public a répondu, c'est pas mission impossible, c'est ça qu'on veut. Vous êtes là, on le veut, et on compte sur vous, et on croit que vous allez y arriver. Maintenant, on a un fort vent arrière, maintenant. On est porté par la vague. Maintenant, il faut qu'on va devoir assumer ça. On a une responsabilité à assumer, elle ne nous fait absolument pas peur, parce que finalement, il ne nous est demandé rien d'autre que d'être ce que l'on est, de continuer à être ce que l'on est, sauf que maintenant, on a compris que ce que l'on est, c'est bien plus que ce que l'on imaginait être. Merci, merci très fort, et on dit, on va y arriver.
Longue vie à Politis.
On a eu quand même beaucoup, beaucoup de relais du côté, en général, de Radio France, faut dire. Et aussi, je dois faire une mention particulière à nos amis de Marianne, avec qui on n'est pas toujours d'accord, mais qui, fidèle à sa philosophie, a d'une part envoyé 5000 euros au titre de Marianne, et Marianne a vraiment relayé l'idée.
Denis Sifer.
Au nom du... ces trucs à lui, mais qui sont tout à fait respectables. Le pluralisme, le respect du débat, etc.
En télé, autre presse.
La télé, c'est ce truc avec un écran, on n'en a pas entendu parler. Non.
Quelle idée tu te fais de ces soutiens?
Je m'en fais une idée formidable et très émouvante, avec des mots formidables d'accompagnement, et ça a vraiment un sens politique.
C'est ce matin, dans l'émission de Morand, on a atteint des sommets de démagogie avec Fillon, premier rédacteur du projet UMP. Liberté de choisir, travailler plus pour gagner plus, etc., etc. Eh bien, moi, Daniel, je viens d'avoir 60 ans. Et puis, comme des milliers de Français, eh bien, je viens d'être licencié, mis à la retraite d'office par mon entreprise. alors que je voulais continuer de travailler plus longtemps pour gagner un peu plus que la retraite. Eh bien, tomber sur le cul, brave Jean, car la loi qui permet cela aux entreprises en France aujourd'hui s'appelle la loi Fillon. Fillon, premier cynique, premier fumiste dans le gouvernement Sarkozy demain, il aura le choix du poste, il n'y a pas de problème. Salut.
Je vous téléphone pour protester contre les tirs de missiles sur des villes israéliennes de la part des Palestiniens. C'est une attitude complètement irresponsable et barbare. Alors, il y a eu un mort aujourd'hui, c'est intolérable. Et la dernière fois, plusieurs messages ont été diffusés concernant, à juste titre, la tuerie de 18 personnes palestiniennes. Et ben, j'estime que ce message doit être diffusé pour dénoncer les méthodes palestiniennes. Voilà. Merci de diffuser le message et au revoir les staliniens.
Ouais, salut Daniel, c'est Fred. Bah écoute, j'ai passé un petit coup de fil pour te féliciter de la rediffusion du reportage d'hier qui vraiment met des images sur ce que peut être la prison et pas simplement ce qu'on a pu entendre le reste de la journée sur France Inter, des termes un peu féminisants du genre promiscuité, pour pas dire chier à 30 cm de la tête de son codétenu, pour dire violence, pour ne pas pouvoir apporter des paroles de maton véritable, ou de déshumanisation, qui à mon avis est une belle connerie, parce que moi je vois la prison comme une suite logique d'un système d'humiliation qui commence à la barre des tribunaux correctionnels, et en particulier en comparution immédiate, et il suffit d'aller y voir, c'est public, pour s'en rendre compte, et d'ailleurs il y a du public, et pas forcément celui qu'on voudrait, et tout ça, une suite d'humiliation qui commence par un petit juge qui t'envoie au cachot après t'avoir posé une seule question, un des matons qui se prennent pour tes parents ou pour ton grand frère ou j'en sais rien, et qui cultivent dans le même temps cette loi du plus fort qui font semblant de déplorer. Une fois à la suite, quand on vient les interviewer, où évidemment le caïd est chouchouté et protégé, où le trafic de drogue est parfaitement toléré dans la mesure où il est contrôlé par certains et pas d'autres. Ce genre de choses qui commencent dès le commissariat, où tu te fais tabasser, c'est pas une légende des années 50, ça existe encore, menotté à tel point que tu serrais, à tel point que tu pisses le sang des poignets. Et puis voilà, et puis la vie carcérale, c'est une suite de ça. Moi, j'y ai pas passé beaucoup de temps, j'ai passé très peu de temps, mais suffisamment pour le voir. Cette bouffe où les rats crevés tombent dedans, cette bouffe que nous on fabriquait et qu'on aurait pour rien au monde pu avaler, c'est... voilà. Ce fait d'être stocké au quartier des entrants, au milieu des pointus. Voilà, la prison, c'est pas une erreur, c'est pas une suite d'errements, c'est pas le fait de mettre 3 mecs dans 9 mètres carrés au lieu d'un qui fait que le système est malade aujourd'hui. C'est qu'on l'a construit comme un espèce de système pour faire pression, progresser des enquêtes, en faisant pression sur des pauvres mecs, des malades mentaux, des toxicos, des choses comme ça, en espérant faire progresser la justice, et avec cette arrière-pensée un peu chrétienne à la con, que on est là pour châtier les gens, non pas pour les punir, les réinsérer, ça c'est des belles conneries, mais que la souffrance du détenu fait partie intégrante de la peine qu'il doit recevoir, de la peine ou de la mesure de préventive, hein, puisque moi j'ai jamais été condamné, j'ai juste été là pour qu'on m'envoie voir ce que c'est. Voilà. Et on m'a fait une belle démonstration. Voilà, donc d'autres journées sur la prison, d'autres émissions, il y a matière. Salut.
Merci de ce reportage. C'est un reportage qu'on vient d'entendre. Témoignage en tout cas sur le reportage de Yves Anctil qu'on a rediffusé l'autre jour, mardi, à l'occasion de cette journée sur les prisons. Vous avez été nombreux à réagir à la façon dont on a présenté ce reportage sur le secteur des mineurs dans la prison de Bois d'Arcy. L'idée était est-ce qu'on peut réfléchir à une alternative à la prison, autre chose que la prison, fermons les prisons, quoi. Alors évidemment c'est des formules qui peuvent paraître brutales, et ça n'a pas manqué de susciter des réponses qui ne l'étaient pas moins, mais je persiste à penser, et je suis pas le seul bien sûr, que c'est un champ de réflexion, j'oserais dire urgent, surtout quand on entend des témoignages comme celui de cet auditeur. J'aimerais d'ailleurs qu'à l'occasion, s'il veut bien nous donner ses coordonnées, ce qu'il n'a pas fait dans ce message, ça nous ferait plaisir de bavarder un petit peu avec lui. Aujourd'hui, on continue, on arrive presque au terme de ce voyage en Afghanistan. Aujourd'hui, toujours avec la question énorme de l'opium, 6100 tonnes d'opium produites dans ce pays, la plus grosse production de l'histoire de l'Afghanistan, et 92% de l'opium produite dans le monde est produite dans ce pays, 5 ans après, vous vous souvenez, bien sûr, de la libération de Kaboul, de la chute des talibans et toute cette glorieuse mise en scène. Et puis ensuite, ces illusions et ces occasions, d'aujourd'hui on peut dire illusions perdues et occasions manquées, dans combien de temps, dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, il y aura à nouveau un journalistan en Afghanistan, c'est-à-dire une concentration de journalistes qui reviendront parce que le conflit repartira, des conflits repartiront, on peut pas prévoir bien évidemment sous quelle forme, en tous les cas les ingrédients, les éléments d'un chaos sont en train de s'accumuler dans ce malheureux pays, dans ce malheureux carrefour du monde qu'est l'Afghanistan. Voilà où nous allons aujourd'hui, juste après ces quelques messages encore, trouvés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, avec la polémique alors qui est en train de s'installer autour du marché du samedi matin et du dimanche matin autour de l'église Saint-Cernin à Toulouse. Hier, il y a une auditrice qui a dit « Oh là là, c'est terrible, on est en train de chasser tous ces petits vendeurs, les 150 petits vendeurs, que personnellement, moi, je trouve très sympa, effectivement. » Mais alors, voilà qu'on le dit, mais c'est pas du tout ça. C'est de la racaille. Oui, c'est de la racaille. Moi, j'avais pas vu de racaille les différentes fois où je me suis baladé dans ce marché, mais voilà, selon une auditrice, c'est de la racaille. Ce message et d'autres, et puis Afghanistan, opium.
Bonjour, j'ai entendu votre émission cet après-midi où vous parliez des puces Saint-Cernin. Alors, avant de défendre et de soutenir la dame qui vous a appelé, je ne mets pas son honnêteté en doute. Mais il y a sans doute longtemps que M. Mermet n'a pas été faire un tour aux puces de Saint-Cernin. Parce que moi, j'y suis depuis 45 ans. Et il y a 45 ans, la police n'y venait pas parce qu'elle n'avait rien à y faire. Maintenant, elle y est tous les dimanches parce qu'il y a trafic de drogue, trafic de cigarettes. Et tous les objets volés aux environs de Toulouse et dans Toulouse même, celui qui a eu son vélo volé ou son portable ou son autoradio va faire un tour à Saint-Cernin pour essayer de voir s'il le récupère. Alors, si c'est ça que vous appelez soutenir les puces, je crois que vous vous trompez. Et ce n'est pas les antiquaires avec l'emphase que vous avez utilisée, parce que ce sont des brocanteurs et quelques forains qui sont là et ils ont envie d'y revenir et d'être tranquilles et non pas d'être empoisonnés par la racaille qui est en train de faire son marché de cigarettes et de drogue, comme je vous ai dit, et d'objets volés. C'est ça maintenant les puces de Saint-Cernin, M. Mermet. Si vous avez l'occasion de venir à Toulouse, allez y faire un tour, vous verrez. Les Toulousains n'y vont plus. Voilà. Les antiquaires, les vrais, à Toulouse, sont dans des quartiers plus huppés, mais ils ne sont pas là. Là, ce sont des petits brocanteurs qui ont le droit de vivre honnêtement et pas la vie pourrie par la racaille qui s'y trouve.
Le 20 novembre à Grenoble, j'ai deux copains qui vont passer en procès pour avoir participé à une manifestation. Le 1er juin, qui était une manifestation contre l'inauguration de Minatech, un pôle de production de nanotechnologie en relation avec l'armée et le monde du privé, et le public bien sûr. Donc ces deux jeunes personnes sont accusées d'y avoir participé et de l'avoir élaboré, cette manifestation. Donc voilà, on pénalise des gens qui se battent pour, si possible, éviter le pire. Et puis on va sans doute les condamner. Donc que les autorités sachent que les personnes qui sont en face sont loin d'être aux abois. Et que ce n'est pas une lutte, c'est simplement comprendre que ce qui est en train de se passer au niveau technologique peut devenir gravissime pour l'humain. Voilà, au revoir.
Bonjour, auditeurs attentifs et géniaux. Le repère de Brive aura lieu ce lundi 20 novembre à 20h30. Nous avons choisi cette fois-ci d'aborder le thème de l'enfance, sa place en France et les dangers qu'elle encourt. Ça se passe au café Le Brassens, place de la Guerre, son numéro 05 55 88 13 40. À très bientôt.
Salut là-bas. C'est Jérôme Denis, chapiteau citoyen, le collectif qui chapeaute l'arrivée sur Nice de la tournée Aux Urnes, etc., se réunit mardi 21 novembre à 19h au Bougalou Bar, le fameux. Nous recherchons des intervenants, des acteurs associatifs, des artistes, des personnes qui proposent leur participation à l'occasion de la venue du chapiteau citoyen en mars 2007. Pour plus d'infos, mardi 21 novembre au Bougalou Bar, sinon sur internet au.urne.etc.free.fr et chapiteaucitoyen.over-blog.com. Allez, ciao là-bas.
نورمال کته لیگی کنه نو نور خو ته زوس خپل خبر نه ما نه دی لیدل چې دی دیزی ته وی وړه غیزی ته وی وړه غیزی ته وی وړ کنه هر ملک ته وڑی نو چې کم ملک ته وڑی
ça part dans tous les pays ça part un peu partout moi je sais pas moi je vends et je sais pas où ça part
ah qui est-ce qui le cultive ici le pavot
oui tout le monde il cultive parce que on a besoin on a besoin
I have heard from farmers and people in Kandahar and Helmand that I can't feed my children democracy to eat democracy.
Ouais, des paysans de la région de Helmand m'ont dit, ben c'est pas avec la démocratie que je vais nourrir mes enfants. C'est pas avec ça que je les fais manger.
I need food.
Il faut de la nourriture.
I don't need freedom of speech and freedom of religion.
La liberté d'expression et la liberté de religion de culte, ça viendra après.
I need something to find food for my children for tonight.
Tout ce que j'ai devant, j'ai besoin, c'est à manger pour mes enfants ce soir.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis, avec Guy Van Til, un retour en Afghanistan.
Flight number two, arriving from...
C'est bizarre les maisons, hein. Il y a une rue principale là, bordée d'arbres. Alors évidemment, c'est des arbres très très desséchés, mais c'est des arbres quand même. Mais les maisons, c'est comme des forteresses un peu, ouais, des hauts.
Voilà, c'est des murs en pisé.
Très haut.
Qui font une enceinte en fait, où il y a la maison, la cour intérieure, la grange et les différentes parties de la maison à l'intérieur. Le village, le vieux village, il est en face de l'autre côté de la vallée. Et tout ça, c'est les maisons qui ont été construites récemment avec l'argent de l'opium.
N'empêche que le village est pas mal équipé. Il y a des pompes partout. Il y a de l'eau. Sécheresse, mais de l'eau quand même.
Ça va, ça va.
Alors le monsieur aussi, c'est un paysan.
Oui.
Et vous aussi, vous cultivez le pavot.
Rodikoukal.
Bien sûr, mais en ce moment, c'est interdit.
C'est interdit, mais vous le faites quand même. Vous le faites quand même, amis afghans de ce village de Zakel, dans la province de Nangarhar, non loin de Jalalabad, non loin une heure et demie de pistes de cailloux et de poussière très 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 sec. Cette région, il y a eu des sécheresses hein, ces années dernières, ce qui explique le développement de la culture du pavot et donc de l'opium et donc de l'héroïne, car le pavot s'accommode assez bien des périodes de sécheresse. Évidemment, c'est pas la seule raison. Depuis 30 ans, l'opium a permis, qui est une culture traditionnelle de cette région du monde, mais qui n'avait pas l'importance qu'elle a pris aujourd'hui. Mais en tout cas, depuis 30 ans, l'opium a permis de financer les guerres nombreuses qui ont secoué et littéralement hébété cette région du monde et ses populations. Guerre contre l'occupation soviétique, guerre entre les différentes factions, les différentes unités de Moudjahidine qui s'étaient battues contre l'Union soviétique. Ensuite, présence, domination et gouvernement des talibans, mais guerre avec l'Alliance du Nord, et puis 2001, bombardement massif des forces coalisées, Enduring Freedom, et ensuite, une sorte de printemps afghan, les choses vont-elles enfin pouvoir se construire pour ce pays toujours à construire qu'est l'Afghanistan? Eh bien, il semble bien qu'on ait loupé une occasion, à la fois les Afghans et la fameuse fantomatique et très improbable communauté internationale qui avait pris pour prétexte la lutte contre le terrorisme pour venir en Afghanistan. Je dis pas s'installer, quoique ce soit très probable, très probablement ce que vont faire les troupes américaines, la puissance américaine présente en Afghanistan, en laissant le soin aux troupes de l'OTAN, aux forces de l'OTAN, eh bien, de faire face à ce qui est en train de se développer, c'est-à-dire dans le sud et l'est du pays, une rébellion de plus en plus articulée et de plus en plus menaçante, et qui mène une stratégie de la terreur. Et cette stratégie de la terreur, si elle peut exister, c'est que les populations n'y sont pas entièrement hostiles, ne sont pas hostiles à ces néo-talibans. Pourquoi ? Parce que il y a eu une désillusion terrible. Les Afghans pensaient que ça y était, voilà, les avions américains arrivaient, alors l'argent allait pleuvoir sur ce pays. C'est pas aussi naïf que ça, c'est bien possible qu'ils soient pas aussi bêtes que ça, mais enfin ils ont pensé vraiment, il y avait tellement de promesses, il y a eu des dons, il y a eu de l'argent est arrivé, moins qu'il n'était nécessaire, beaucoup moins par rapport à l'aide concédée pour le Kosovo par exemple, ou pour les territoires palestiniens, l'aide est beaucoup moins importante. Mais enfin, il y a quand même eu quelque chose. Il y a eu des efforts, de fait, mais des efforts désordonnés, chaotiques. Comment peut-on construire un État avec une idéologie libérale qui est contre l'État? C'est la contradiction, et c'est une sorte de court-circuit qui a mené probablement, c'est l'une des explications, il y en a sans doute d'autres, mais c'est, à mon avis, c'est l'explication centrale qui a mené au chaos d'aujourd'hui. Donc on est dans ce village de Zakel, on va parler avec les paysans, ils vont nous expliquer comment ils produisent ce pavot, puis on essaiera autant que faire se peut de suivre la filière éclairée que nous serons tout au long de cette heure avec notre ami Almas, qui est un jeune homme de Jalalabad et qui a une vision très articulée, vous allez voir. On va le retrouver encore aujourd'hui, de ce qui se passe dans son pays, et qui prend les choses à cœur et à bras-le-corps, on pourrait dire. Et puis aussi Alain Labrousse, qui est un des meilleurs observateurs et spécialistes de la drogue, de l'histoire de la drogue contemporaine en général, et de ce qui se passe plus spécialement en Afghanistan. C'est jusqu'à 16h, c'est la base de Si j'y suis, un retour en Afghanistan.
Même si je fais 1000 tonnes de blé, ça ne me permettra pas de subvenir aux besoins de la famille. Avec 50 serres de l'opium, j'arrive à nourrir la famille.
Et vous avez toujours fait ça?
Oui, depuis que je suis né, je fais ça. Même mes parents et mes grands-parents ont fait ça. Mmh.
Mais quand les talibans étaient là, ils vous avaient interdit de le faire.
Ah oui, malik, quoi, oui,
oui, de toute façon, nous, les talibans, ils ont imposé, en fait, ils ont dit qu'il ne faut pas cultiver le pavot, mais nous, on a continué à le faire. De toute façon, ils ont fait la pression sur personne pour qu'ils arrêtent de cultiver.
Mais à qui ça rapporte le plus, cette histoire?
Tout le monde est gagnant,
de cette histoire-là. Le cultivateur est gagnant, les commerçants sont gagnants, tout le monde est gagnant.
Les trafiquants aussi sont gagnants.
Comme dire en marketing, c'est du win-win.
C'est gagnant pour tout le monde, sauf pour le toxico quand même.
Si voulait vraiment bien le faire, il fallait qu'il nous fasse un centre commercial pour vendre ce genre de choses et que ça soit tout soit légalisé.
Oui, mais si c'est légalisé, ça vaut plus rien.
C'est pas grave, je vais cultiver un peu plus davantage, un peu plus.
Et est-ce que vous en utilisez, vous?
Non, non, c'est interdit dans la religion, moi je le fais pas.
Ah, donc vous voyez bien que c'est mauvais.
Dans notre religion, de toute façon, c'est interdit. Les autres qui prennent ça et qu'ils sont pas intelligents, ben, c'est pas notre problème.
Ouais. Ouais. Alors tout va bien. Donc, vive l'opium. Il y avait l'opium du peuple, là c'est le peuple de l'opium.
Comment voulez-vous que nous on pense aux autres alors que personne ne pense à nous? Ici on n'a pas d'eau. Quand il y a des aides qui arrivent de l'étranger, bah, ça n'arrive jamais jusqu'à nous. Alors qu'est-ce que vous voulez que nous on pense aux autres si on ne pense pas à nous?
Et c'est comme ça que c'est ressenti ces cinq années. Effectivement, la plupart des Afghans n'ont pas vu cette aide changer quoi que ce soit à leur vie. Leur vie est toujours aussi rude. Et si, bien sûr, la pression des talibans ou les guerres entre seigneurs des guerres se sont un peu apaisées, les conditions de vie reste terrible. 3 milliards, presque 3 milliards de dollars, c'est ce que dégage en chiffres le commerce et le trafic d'opium pour l'Afghanistan, ce qui constitue presque 60% du produit intérieur brut. Mais ce que disent ces paysans, c'est tout, c'est gagnant-gagnant. Oui, enfin, sauf que les paysans, ça rapporte, se partage 20% de l'ensemble de cette activité, et les trafiquants se font quand même 80%, évidemment sans faire grand chose. Et je rappelle que toute la question est que les trafiquants, c'est le gouvernement. C'est peut-être pas tout à fait Hamid Karzai lui-même, mais enfin on cite très souvent. On soupçonne son frère, on soupçonne beaucoup de gens qui sont au gouvernement et beaucoup de parlementaires. Ce parlement qui a suscité tant d'espérance, ce qui est tout à fait légitime, bien évidemment. Eh bien, il y aurait une part non négligeable des membres de ce parlement qui auraient des liens avec cette activité coupable. On voit, on retrouve aujourd'hui Alain Labrousse, qui est, je vous le rappelle, auteur d'un bouquin qui s'appelle Afghanistan, opium de guerre, opium de paix, et qui est un spécialiste de la géopolitique des drogues. Parce que vous êtes en train de vous dire, bon, ça fait quand même beaucoup de drogues. Et nous ici, est-ce qu'on est à l'abri, docteur? tonnes d'opium produites en Afghanistan pour cette année 2006, où ça va tout ça?
Alors, il y a une part assez infime de cette production qui va jusqu'en Europe où elle alimente la consommation d'héroïne, c'est clair. Mais les plus grosses quantités se déversent, je pèse bien mes mots, sur les pays voisins, en particulier le Pakistan où il y a plus d'un million de toxicomanes à l'héroïne, l'Iran qui en a la même quantité mais une forte consommation d'opium qui est plus ou moins traditionnelle. L'Asie centrale, 500 000 consommateurs.
Qu'est-ce que vous appelez l'Asie centrale?
Ben, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, où ils ont 500 000 consommateurs, pas mal d'injecteurs, d'où ça alimente aussi l'épidémie de sida. Et puis, la Russie, officiellement, on parle de 1 million de toxicomanes, mais selon certains observateurs, il y aurait 2 millions de toxicomanes rien qu'à l'héroïne. Il y a une épidémie beaucoup plus importante. Et même en Chine, qui a une forte consommation d'héroïne aussi, plusieurs millions de consommateurs qui étaient traditionnellement alimentés par la Birmanie, où il y a une forte réduction des cultures et de la production, et qui maintenant commence à s'approvisionner à partir des musulmans du Nord, qui ont des contacts avec les groupes islamistes, etc. Donc il y a maintenant de plus en plus d'héroïnes afghanes qui arrivent jusqu'en Chine et en Inde aussi. Jusqu'ici, chez nous, l'augmentation de la production afghane n'a pas remis en cause la stabilisation, le recul de la consommation d'héroïne qu'on avait constaté à la suite des mises en place de politiques de substitution, de réduction des risques, etc. Mais comme il faut un an et demi entre la période où on récolte et la période où, après avoir transformé, on distribue dans les rues, disons ces 6000 tonnes, on va avoir leur impact dans un an et demi. Et là, déjà cette année, les saisies ont augmenté de 17%, les saisies d'héroïne en France. Donc, il y a effectivement une menace qui plane d'un retour de l'héroïne.
Ça, vous savez absolument où va votre opium?
Bien sûr, on sait que ça va à l'étranger.
Et à qui ça rapporte le plus?
L'argent attire l'argent. De toute façon, c'est les gros commerçants qui gagnent le plus. Si tu as beaucoup d'argent, évidemment que tu peux acheter plus et revendre plus et gagner plus.
Mais est-ce que vous pensez que ce trafic rapporte à votre gouvernement?
Si le peuple est content et qu'il gagne sa vie, évidemment que pour le gouvernement, c'est bien. C'est notre complice, le gouvernement.
Mais il paraît qu'il y a des gens importants au gouvernement, des ministres, qui gagnent beaucoup d'argent, et même avec ça.
Oui, bien sûr qu'ils ont leur intérêt là-dedans et c'est pas les petits gens comme nous qui peuvent faire le trafic vers l'étranger, c'est toujours les gros bonnets.
Est-ce que vous l'utilisez, vous, l'opium?
Non, pas du tout. Nous, on le fait juste pour de l'argent.
Mais vous ne l'utilisez pas comme médicament pour calmer un peu?
Alors, on donne un peu aux enfants quand ils sont malades, par exemple quand ils ont mal à la poitrine, ben, on leur donne un tout petit bout pour les guérir. Parfois on s'en sert comme légume, du bulbe, on le prépare à la cuisine et on le mange et c'est très bon.
Alain Labrou, je reviens au titre de votre bouquin, Afghanistan, opium de guerre, opium de paix. Opium de guerre, on comprend, vous me l'avez dit, comment les néo-talibans qui sont vraiment remontés, c'est le cas de le dire, et qui sont en train de contrôler toute la partie sud et est du pays, s'appuient sur l'argent de l'opium. Mais opium de paix, c'est un peu plus difficile à concevoir.
Alors écoutez, là je m'abrite derrière une étude de la Banque mondiale, qui a justement envisagé ce problème en faisant un rapport en deux parties, les aspects positifs et les aspects négatifs. Et les gens de la Banque mondiale, qui sont bien placés pour le savoir, disent que parmi les aspects positifs, il y a la stabilisation de la monnaie, qui dans un pays comme l'Afghanistan est étrangement stable, justement. Il y a la possibilité d'importer des biens de consommation massivement, en particulier du Pakistan. Il y a aussi non seulement l'emploi rural, et la stabilisation dans les régions rurales, mais également, par exemple, on voit des constructions souvent luxueuses, même si elles sont de mauvais goût, qui poussent un peu partout, des palais, etc., avec énormément d'ouvriers de la construction. Ils sont pas toujours d'ailleurs afghans, il y a beaucoup de Pakistanais, mais bon, ça donne du travail aussi aux gens. Il y a un expert français qui est détaché auprès du ministère de l'Agriculture, Farouk Barouzaï, qui dit que le décollage dans l'agriculture dans plusieurs provinces n'est venu que de l'argent de la drogue, qui parfois est réinvesti dans le développement, contrairement à ce qui se passe par exemple en Amérique latine, où en général les trafiquants importent des biens somptuaires, placent à Miami ou ailleurs. En Afghanistan, il y a une espèce de réinvestissement dans le pays, comme dans le nord du Maroc aussi par exemple. Donc il y a une utilisation dans le dynamisme économique, mais ça a des effets pervers et négatifs aussi extrêmement clairs, même d'un point de vue économique. Je disais qu'on importait beaucoup de biens de consommation durable ou pas du Pakistan, ça empêche de se reconstituer un artisanat, une petite industrie en Afghanistan, parce que les trafiquants blanchissent à des prix à perte. Ce qui les intéresse, c'est que l'argent perde son origine mafieuse, et donc ils importent à des prix et ils vendent à des prix relativement bas, et donc les Afghans ne peuvent pas être concurrentiels. Mais au-delà de l'économie, il est certain que ça finance d'abord l'opposition taliban, mais aussi le séparatisme de seigneurs de la guerre qui, grâce à l'argent...
Ce qui menace la construction de l'État.
Ce qui menace la construction de l'État. C'est pour ça que moi, je me refuse au terme de narco-État.
Voilà,
parce qu'au contraire, la drogue favorise la fragmentation de l'État.
C'est ça.
Elle l'a été en Birmanie, parce qu'il y avait un État fort central qui profitait de la drogue, qui investissait par exemple dans l'achat d'armement pour mettre à genoux les minorités ethniques. C'est ce qu'ont fait les Birmans. Ils ont acheté des avions de chasse aux Chinois, et avec ça, ils ont écrasé les Karen, par exemple, qui était une de leurs oppositions. Donc là, on peut parler de narco-État, parce que ça va en partie dans les caisses de l'État. Mais dans le cas de l'Afghanistan, ça contribue aussi à dissoudre l'État. Et à mon avis personnel, les effets négatifs sont beaucoup plus importants que les effets positifs, même si aujourd'hui on peut pas supprimer brutalement.
Qu'est-ce que ça fait vivre combien de personnes en Afghanistan ?
En Afghanistan, il y a cette année 450 000 familles. Vous multipliez par 6, ça fait 15% de la population afghane qui vit directement, sans compter tous ceux qui...
C'est ça, vous parlez des paysans, là.
Des paysans.
Oh, il demande si vous voulez...
Le gars est local. Hein?
Si vous voulez fumer un peu de ferme.
He also does,
ah oui, d'accord.
Yeah, but he used to do the local buying and selling.
Ah, c'est un marchand. Il achète localement, il vend.
Alors, lui, qu'est-ce qu'il vend ?
Lui, il vend, des bibelots. Il vend aussi des allumettes, des cigarettes, des biscuits.
Ouais, c'est l'épicerie, quoi. C'est le drugstore.
Sauf que c'est le drugstore au propre et au figuré. C'est-à-dire que non seulement il fait épicerie, mais aussi c'est lui qui rachète l'opium des paysans du coin.
Voilà, drugstore. Et oui, littéralement, drugstore. De petite épicerie, toujours dans le village de Zakel, dans la province de Nangarhar. Il faudrait dire un jour la coquetterie des hommes, c'est une parenthèse, mais quand même, c'est frappant très souvent en Afghanistan, et notamment dans la zone Pashtoun, comme les hommes sont coquets, se mettant du col, autour des yeux, portant des chapeaux, des bonnets avec incrustés de brillants, se faisant les ongles en orange, c'est assez curieux, ou en certaines couleurs comme ça, des gens très coquets. Et c'est le cas de l'épicier de Rockstore et qui va nous expliquer un petit peu quelle est sa fonction dans ce village producteur d'opium.
He's the first degree buyer. So it's farmers and then people like him.
Oui, c'est le premier degré d'acheteur. C'est celui qui achète aux paysans de l'opium.
So they buy it, they don't keep it in the shop, but they keep it in their houses in for a day or two and then they...
Alors lui, il le rachète aux paysans, mais après il ne le met pas en vente dans sa boutique, il le garde dans sa réserve pendant 2-3 jours, le temps qu'il y ait des grossistes un peu plus importants qui viennent le lui racheter.
They don't have that much money to buy a lot at one time.
Parce qu'il n'a pas énormément d'argent pour en acheter beaucoup d'un coup, lui.
So what they do, they buy every day, let him go and sell it in bazaar and come back, buy more and take
it. En fait, lui, c'est vraiment l'intermédiaire. Chaque jour, il en achète un peu en fonction de ses moyens et il va le revendre au bazar pour avoir un peu de liquidité et revenir en racheter pour y retourner le lendemain.
These are people who don't have that much land. So this is at the time of the year that they make a little bit money for themselves.
Voilà.
By buying it from farmers, selling it to a little bit upper dealers.
Voilà. Eux, c'est des gens qui ont peu de terre. Cet épicier-là, il n'a pas beaucoup de terre et donc c'est en achetant et en revendant l'opium, mais faisant une petite marge, en le revendant aux plus gros acheteurs. C'est le seul moment où il fait un peu de plus-value, en fait.
Oui, mais il l'achète sous quelle forme? J'aimerais bien voir sous quelle forme c'est.
So, it depends what time they buy it. If the farmers sell it directly, right away on the field, so it's wet, watery. If they stay for a while, for 3 months or 1 month, for the price to go up, then it gets dry. So it would be dry. If it's 1 year old, so it's very dry, very expensive.
Ça dépend de la période à laquelle il a été récolté. Si le paysan vient le revendre tout de suite après la récolte, c'est très très collant, aqueux, parce que c'est encore chargé d'eau. Si c'est au bout de 3 mois, bah là c'est une pâte un peu plus collante. Tandis que si c'est au bout d'un an, là c'est très sec et là ça vaut plus cher aussi.
So the fresher it is, the more weight it has, the price is low.
Voilà, parce que plus il est frais, l'opium, plus il y a d'eau dedans, en fait. Donc plus il est lourd et plus le prix est bas.
Oh, the older it gets, the lighter it gets, the expensive, the
alors
more expensive.
Alors que plus il est vieux, plus ça fait longtemps qu'il a été stocké, et ça peut être stocké assez longtemps, plus l'eau s'en évapore, donc plus il est léger et plus il est concentré, et donc plus il est cher.
Et moi j'aimerais bien voir sous quelle forme vous le stockez.
J'en ai pas pour l'instant dans ma boutique.
Et il demande d'amener un petit peu d'opium pour montrer à nos invités.
Va voir, il demande à son fils. Va voir. Un petit peu. Il fait signe comme ça, tu amènes un petit peu, quoi. Ils veulent voir à quoi ça ressemble.
Encore un peu père. Salam, salam. Tout le village vient nous voir. Et ce qui nous a frappé, c'est qu'effectivement, on ne consomme pas dans ces campagnes, dans ces régions productrices. On ne consomme pas. L'islam interdit la consommation de drogue et voilà, ça sert pour ne pas le faire. Alors on l'utilise un petit peu comme ça pour contre certaines douleurs, comme peut-être pour endormir les enfants un petit peu quand même, mais on fait très attention. Alors voilà le premier stade, hein, les paysans qui produisent, l'épicier qui récolte un petit peu, qui va revendre ça à qui donc? Eh ben par exemple à quelqu'un comme Hassan. Mais entre ce village et puis encore une fois, les toxicos, le chemin est long et enrichit beaucoup, 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 beaucoup de monde. Voilà un revendeur, Hassan. Alors ça, c'est le deuxième étage, hein, du processus. Ça, c'est le processus du revendeur. Alors, à qui vous achetez ?
Moi, j'achète aux paysans.
Manga au kali ki karko. Yo moi malk talar sho balzi talar sho balzi a gizinera tul ko be pa mari kharso.
Moi, je tourne dans les villages, je rachète et puis je revends.
Mais est-ce que c'est un métier légal, licite que vous faites ou c'est interdit?
Da kho na ka poyu kan na ka kanuni na de no. Poyu kanuni na de. No de mojbure ata de.
Oui, on est obligé, c'est pas vraiment légal, mais c'est un besoin.
Alors chaque année, vous achetez quelle quantité et vous revendez quelle quantité?
J'achète par 2 kilos, 1 kilo, 2 kilos, jusqu'à 5 kilos et je revends à peu près 80 kilos par an.
80 kilos de pium par an. Ça fait combien d'argent, ça?
En fait, je vends 1300 grammes pour 10 000 afghanis.
200 dollars à peu près.
200 dollars, le kilo 300.
Voilà.
Combien vous gagnez d'argent par an?
On gagne pas tout le temps, hein. On peut perdre aussi. Et moi, je gagne 10 000, 20 000, 15 000 ou jusqu'à 30, 40 000 afghanis. Mais par
dans l'année
aussi.
Oui, mais ça fait combien de dollars, ça?
5 000 dollars par an.
5 000 dollars par an. C'est beaucoup d'argent pour l'Afghanistan?
Oui.
Pour cette économie, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup de l'argent.
Très bien.
Un fonctionnaire, il a 40 dollars par mois le salaire fonctionnaire gouvernemental. Voilà, c'est un grand...
Comparaison, là, c'est combien gagne un professeur d'université?
À peu près 80 dollars par mois.
80 dollars.
Ça va, je m'en sors avec ça.
Mais ça ne doit pas être facile, hein, votre métier, parce qu'évidemment, vous avez des biens, vous avez de la richesse, vous pouvez vous faire attaquer, vous êtes armé, je pense.
Wasle wala manga neu. Manga wasla nalaru, au nara sarastade, poishwe, aga wasli chidi, agatu tujaranu saradi, agara kirtunam gatu tujaran lari, khpals de pam kawaleshi, arsa kawaleshi, au manga et sanushu kawale. Nous, on peut rien faire, on n'est pas armés. En fait, c'est les grands commerçants, c'est les grands trafiquants qui sont armés. Ils ont des roquettes, ils ont des kalachnikovs, ils ont des fusils, ils ont tout ce qu'il faut.
Ici, dans le pays?
Non, ils sont dans les montagnes.
Ah. Et est-ce qu'ils sont protégés par les gens du gouvernement?
Bien sûr qu'ils ont des liens avec le gouvernement. Il y a des commandants qui sont mêlés à ça, il y a des politiciens qui sont mêlés à ça. Ils sont tous complices.
Vous là-dedans, vous êtes un petit mulet. Juste un petit mulet, de rien du tout. Comme un petit âne.
Non, tu
peux pas dire petit âne. On ne peut pas dire petit âne. Pour ça, j'ai demandé un autre mot.
Oui, un maillon de la chaîne. Mais je ne peux pas dire âne. Alors là, c'est la guerre après. Oui, c'est une insulte, oui.
Awal de kande, bien passé mungayu, bien passé nourdi, bien passé nourdi, bien garçon d'agardi passé.
Oui, je suis un maillon de la chaîne. Il y a d'abord les paysans, après c'est moi, après c'est l'autre, et c'est l'autre. Il y a les intermédiaires comme ça.
Est-ce que vous avez goûté un peu ce que vous vendez? Parce qu'un bon commerçant, il sait de quoi il parle. Non?
Nana. Tu bouilleras, si kana, am ganga si ou. Manga khpalam da na yacho ou ne khuru. Poi, je t'agamou khwala no biako kar nusu kawale kana.
Mais on peut pas travailler ici, au moins, ça, c'est, moi, j'en prends pas.
Mais est-ce que vous pensez quand même à l'autre bout, tous ces drogués, tous ces toxicos, là, en Inde, au Pakistan, ou ailleurs dans le monde?
Bien sûr qu'on est conscient de ça, bien sûr qu'on le sait, mais qu'est-ce que vous voulez, nous aussi, on est dans le besoin, c'est par besoin qu'on fait ça.
Balalar de piada ki, karkhani di juri ki Afghanistan ki, poishwe, banduna di juri ki, yao karobar di warta piada ki, nur da se yao chishe wasail di warta piada ki, chi da pi uo bokshi da Afghanistan khalaka, da di katri sara da de aga rang rukshi.
Si ils n'ont pas de doute, mais il faut qu'ils fassent des usines, qu'ils créent des emplois pour que les gens travaillent, pour qu'on n'entende plus parler de cette histoire-là, de l'opium.
Imaginez, avant qu'il y ait une usine qui vous permette de gagner 5 000 dollars par an, C'est quand même pas demain, la veille, qu'on va pouvoir installer une économie qui vous permettrait à quelqu'un comme vous de gagner une somme aussi rondelette. Donc je pense que vous n'êtes pas prêt d'arrêter. Pas prêt d'arrêter, sans doute. Il y a très peu d'exemples d'éradication réussie. On cite toujours l'exemple de la Thaïlande, où sur un délai de 15 ans, sur une période de 15 ans, on a réussi à mettre en place des cultures alternatives qui ont permis de faire basculer, de faire le pays, enfin des parties du pays, dans de production moins dangereuse, évidemment. Mais il y a assez peu de cas. Alors, et notre projet qui était de remonter la filière et de faire toutes les articulations du maillon de la chaîne, ben c'est très 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 difficile. Très rapidement, on arrive dans des zones de non-droit, comme nous le précise Almas.
Once you, it's on the, this is the road to Tolkham.
Ça, c'est la route de Tolkham, la route qui est tout droite vers la frontière pakistanaise. Et si on prend à gauche pour aller vers les montagnes noires, il y a 3 heures de route après.
So there's, he said, this is the center of, you know, in Jalalabad, like Al Qaeda and Taliban, all those people. So.
Et c'est là, dans la région de Jalalabad, c'est au bout de 3 heures de route qu'est le centre Al Qaeda, Taliban et tout ça.
And
de trafiquants de drogue aussi.
So he didn't recommend to anybody to go there, especially foreigners.
C'est pour ça, mais il n'est pas recommandé à quiconque d'y aller, surtout pas aux étrangers.
Mais les paysans qu'on a vus aujourd'hui dans ton village là, eux, ils y vont.
Yeah, but they go. There's not strange for them. They know each other. This is their business. They know their faces. But if I go like this and you go like that, they will notice the difference, and we will be pointed out from very far away.
Oui, mais parce que eux, ils connaissent, ils sont connus là-bas, ils se connaissent de visage, ils savent qui aller voir. Tandis que même moi, si j'arrive comme ça avec mon chaloir camise plus ma veste. Et si vous arrivez habillé en occidentaux, on va nous voir de très très loin, on va être opéré.
But those areas are most of those small areas. They're not big areas. They're run by the Taliban or there are no government.
Mais ces petites zones comme ce marché-là, qui sont des petits espaces qui ne sont pas du tout sous le contrôle de l'État, mais sous celui des Talibans.
Because if there was government, there won't be that business.
Parce que si le gouvernement était présent, ce business-là ne pourrait pas prospérer aussi ouvertement.
Et pourquoi le gouvernement n'est pas là?
Because it's very far away, you know, they can't send their forces just to close that market, you know.
Parce que c'est très reculé, c'est une zone assez lointaine et ils peuvent pas envoyer des soldats juste pour fermer ce marché.
And it's not a market that you go and people put the opium in front of them and they say, okay, kilo by $100, kilo.
Et puis c'est pas non plus un marché où ça se fait complètement ouvertement avec les gens qui déballent leur paquet d'opium devant sur leur étalage et qui disent, voilà, c'est $100 le kilo, etc.
I put my opium in a place, in a house, and I come to you and say, how are you? You're fine today. Right. I have some stuff if you want it. This much, you know, you deal, you finalize, and then go, you pick up your stuff.
C'est plutôt que toi, tu attends ton opium qui est dans ton hangar, et puis après tu vas au marché, et puis tu vois quelqu'un, tu dis bonjour, comment ça va? Ça va bien et toi? Mais si tu veux, j'en ai. Et puis on se met d'accord sur le prix, et une fois que la transaction est faite, là, la livraison se fait.
It's not as open as it was in Mujahideen times and Taliban's time. The market is not that open.
No.
No, it's not that open.
Le marché n'est plus aussi ouvert à l'air libre comme il l'était à l'époque des Mujahideen ou même l'époque des Talibans.
Merci Almas Bawar, merci Alain Labrousse, Hassan Akbar, Ron, merci à tous les habitants du village de Sahel, merci à Guillaume Fournier du Tsenlis Council, c'était un reportage avec Guy Vantil, merci à Hassan Meranguet, notre traducteur, le bouquin d'Alain Labrousse, Géopolitique des drogues, c'est aux éditions PUF, toutes les informations sont disponibles sur le site de franceinter.com à la rubrique émission là-bas, c'est ici où vous pouvez réécouter cette émission et vous pouvez également la réécouter sur la-bas.org. La technique aujourd'hui, Benjamin de la Gâtinais et Yann Bouillot, c'est Yann Chouquet et Coyen Guyenne qui ont réalisé cette émission. Montage Raphaël Moutard, assisté de Pascal Le, Pascal Yello et Christophe Imbert pour le répondeur dont le numéro est le 01 56 40 37 37.